Donc effectivement, c'est en cours de construction. Il y a pas mal de choses qui vont changer. Et il y a pas mal d'éléments qui vont arriver aussi.
Ouais. Oui, parce que je suppose aussi que tu dois avoir contre la pluie...
Un sol et un toit, déjà.
Oui, un sol peut-être surélevé comme une terrasse.
Exactement. Pour
éviter, ouais.
Exactement.
Le froid, ouais, ça va être une grosse... Ouais, grosse structure, hein.
Oui, mais démontable, quoi. Quand
ouais.
Même, légère en termes de... Je dirais que ça ressemble à un peu de pocket, tu vois.
Oui,
quatre morceaux.
C'est
dessous.
J'aime bien le petit polypocket.
Tu mets ça dans un
ouais,
camion, quoi.
Oui.
Donc,
tu as le camion, du coup
Bah écoute, oui, on va l'avoir. On va l'avoir, voilà. Un bon petit thé chaud. Enfin,
merci.
C'est une infusion.
Hmm?
C'est une infusion.
Ok. Ça te va ? Oui, non, c'est très bien.
C'est à l'avenir, ça va être un choix plus. Important.
Je vais mettre sur le lit parce que les pieds à chaussettes.
Est-ce que tu veux te réchauffer les pieds avec le feu là ?
Non, ça, ça va. Ça va, ouais. J'ai laissé les chaussettes, les combos des.
Bien,
ouais.
Le but, c'est que tu sois bien installé.
Pour l'instant, ça va. Attends, j'ai des boutons. Tu vois les boutonnages ?
Très bien.
Ah là.
Très bien. Mais écoute, bienvenue.
Merci.
J'espère
mais c'est ce que j'ai. Ouais, c'est ce que j'ai fait aussi.
T'es fatiguée ?
J'essaie de me lever tôt, mais en fait, si je décale d'une heure le matin, je crois que c'est ça en fait la trentaine. Si tu fais ça y est, maintenant je le sens. D'aller une heure trop tard au lit. C'est fini. Et ce matin, j'ai dit, vas-y, lève-toi. Donc voilà.
Tu te couches à quelle heure en général ?
J'ai eu une époque où je me couchais, tu sais, à 2h, 3h du matin. C'était constant. Là, depuis le premier confinement, j'arrive à me coucher vers 23h, minuit. Ce qui est un miracle. Vu de toutes ces nombreuses années où je me levais, où je me couchais super, super tard. Ah ouais. Donc, c'est pas plus mal.
Est-ce que tu veux bien être enregistrée ?
Oui. Bon, oui, ça va.
Oui ?
Ouais.
Si jamais à un moment donné t'as plus
envie de ouais ok je vois ouais dit. Ok
et pareil s'il y a une thématique qui ne t'intéresse pas
d'accord
ou
ouais,
à laquelle
ouais.
tu n'as pas envie de répondre
ok je te le dis aussi d'accord ouais.
Quand tu dois partir tu pars
oui
interrompre
ouais ok
quand tu veux
d'accord ouais d'accord ça va et puis tu disais tu peux revenir plus tard enfin
exactement.
Ouais, plusieurs fois, ok.
Tu peux revenir plusieurs fois et puis je pense que notre discussion sera différente aussi à chaque fois.
Oui, c'est ça. Oui, bien sûr.
Et pour le plaisir aussi de voir évoluer le travail.
Ouais, ça c'est toujours intéressant.
Donc, vas-y, pousse les...
Ils vont prendre le... Du coup, je vais manger.
Tu vas manger ?
Oui, c'est ça.
Donc voilà. Comme tu peux le voir, il y a plein de petits mots un peu partout. Mm-hmm. C'est vraiment en chantier, en fonction de... En fait, plus j'habite l'espace...
Plus tu te rends compte.
Plus je définis un peu plus ce que je veux en termes d'objets signifiants.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Tu vois, par exemple, j'aimerais bien non seulement le sol surélevé, bien sûr, mm-hmm. pour les intempéries, etc. Mm-hmm. Mais aussi, j'aimerais bien mettre des jolis tapis.
Ouais.
J'aimerais bien avoir des beaux tissus.
Ouais.
Artisanaux, locaux, durables, etc.
Ouais, vraiment dans l'idée d'une chambre, quoi.
Exactement.
Ouais.
Et c'est quelque chose que j'assumais pas avant.
Mm-hmm.
Et plus je rencontre sur cet espace
ouais.
Des personnes, plus je réalise que c'est vraiment la chambre que je n'ai jamais eue,
ouais.
que j'ai envie de rendre visible.
Mmh.
Et pour moi, ça va, tu vois, d'un objet, là tu vois c'était des tests genre ok il me faut un objet brillant parce que moi j'adore tout ce qui est flamboyant brillant mais aussi pourquoi pas prendre en photo les invités faire un mur invité pour voir toute la diversité des corps pourquoi pas faire un mur en ardoise pour que chaque invité puisse laisser un petit mot quelque chose s'il a envie ou s'il y a et puis ici, plutôt quelque quelque chose qui serait plutôt de l'ordre de la documentation de ma famille. Et donc tout autour, tu auras des rideaux et l'invité sera libre de choisir si elle souhaite être visible ou non,
par les
spectatrices. Et aussi si elle souhaite être amplifiée dans l'espace public majoritairement. Si c'est dans des lieux culturels, ce sera donc dans des espaces transitoires comme les halls, les jardins, les lieux, etc. Et donc si tu ne souhaites pas être amplifiée, tu auras tout à fait le choix de dire. C'est l'idée de créer une forme de cocon.
Mais qui donne aussi sur l'extérieur.
Exactement. Et est-ce que tu es bien installé?
Moi, oui, là, oui.
Oui, tout va bien. Parfait. Si jamais tu veux le plaid à un moment donné, tu me le dis. On peut le retirer.
Non, je suis pas trop frileuse et là, je trouve qu'il fait bon ici. Je vais regretter après de retourner de l'autre côté.
Et alors, est-ce que tu dors seule, toi, en général?
Oui.
Et comment tu te réchauffes la nuit?
Je porte en pyjama et en période d'hiver, c'est-à-dire d'octobre à, là ça se prolonge pour le coup cette année, avril, peut-être mai, je mets des grosses chaussettes en laine. J'en ai deux paires qui appartenaient à ma mère quand elle faisait du sport plus jeune. Parce que sinon, si mes pieds ne se réchauffent pas, je ne m'endors pas. Donc je peux rester 2-3 heures sans m'endormir tant que la température de mon corps n'a pas atteint les degrés nécessaires pour m'endormir. Donc c'est automatique, quoi.
Voilà. Et le pyjama, on peut savoir comment il est?
C'est très classique. C'est pour l'instant, c'est un pyjama avec un... Donc c'est un vrai pyjama coordonné, couleur vert... vert feuillage, avec juste 3 boutons décoratifs sur le haut de l'épaule droite, pantalon et t-shirt. J'essaye d'avoir des choses... J'aimerais bien avoir un peu plus de sous, tu sais, pour balancer tous mes vieux t-shirts, etc., que je mets à l'intérieur pour avoir des ensembles coordonnés. Comme ça, quand tu peux recevoir des gens chez toi, tu peux toujours les recevoir dans un habit d'intérieur sans avoir à le changer. Voilà.
Est-ce qu'il t'arrive de dormir avec des amis?
Oui. Amis dans le sens amical, tu veux dire.
Ouais, exactement.
Oui. Oui. Récemment, il y a 2-3 semaines, j'ai dormi chez une amie qui a un plus grand lit que moi, donc c'est beaucoup plus confortable. Et là, elle m'avait prêté, je lui avais demandé une culotte et un t-shirt, quoi. Mais ça m'arrive, oui. C'est souvent en dépannage ou parce qu'on est en vacances et qu'il n'y a pas assez de chambres, alors tu dors avec, avec tes amis, quoi. Donc, ouais.
Et ton lit, il fait quelle taille?
C'est un lit, en fait, on pourrait croire que c'est 2 personnes, mais c'est une personne, c'est le 1m40 classique, 1m40 sur 1m80. Mmh. Ouais.
Et ce serait quoi ton lit idéal?
1m60, voire 1m80. Ouais. Oh, ouais. Parce que... Enfin, ça a été une question quand j'ai vécu en couple de me dire ce n'est pas possible de dormir à deux dans un lit d'1m40. Je dormais très très mal. J'ai besoin de mettre dans une position, la fameuse position du chien de fusil, tu sais, où tu une jambe étendue, l'autre pliée. À deux, c'est pas possible. Du coup, je me sentais étriquée, donc 1m60, c'est pas mal. Ouais. Après 1m80, il faut avoir la chambre qui va avec.
Est-ce que tu as des coussins sur ton lit?
Ouais, j'en ai 4. Généralement, je dors entre les... Donc, ils sont les 2 superposés, 2 à gauche, 2 à droite. Et je dors généralement plus ou moins au milieu. Et alors, j'ai toujours le même truc. Quand je me couche, je sens que je tombe dans le pli. Donc, je relève la tête, je les réassemble pour me remettre là. Et je comprends pas les gens qui dorment avec un seul coussin ou 2 petits coussins plats comme ça. Il faut que j'ai l'impression que ma tête s'enfonce comme ça. Voilà.
Est-ce que tu as des rituels avant de dormir?
Pas vraiment. Enfin, des trucs assez classiques. Souvent, je me fume une clope, la dernière clope. Et puis, oui, bien souvent, je me suis déjà démaquillée avant, je me suis mise une crème. J'attache mes cheveux au-dessus de ma tête pour ne pas les frotter parce que je frotte. Et alors, j'ai une application en fait qui s'appelle Sleep by Android. Et c'est une application qui t'enregistre pendant ton sommeil et qui en même temps, tu lui dis, voilà, mon heure idéale pour m'endormir, c'est vers telle heure. Donc des fois, elle peut t'envoyer des notifications en disant « c'est l'heure de dormir ». Ou alors, moi, j'ai dit que l'idéal, c'est que je dors 8h30 par nuit, ce qui est énorme, puisque je me rends compte que je n'en ai pas besoin de dormir 8h30. Mais quand je dois rattraper du sommeil, même si apparemment on ne rattrape jamais, mais du moins me reposer, je préfère me dire « je vais mettre 8h30 ». Et je me suis rendu compte que dire à l'application « ok, mets-moi l'heure de réveil idéale en fonction des 8h30 » est beaucoup plus agréable, en fait, que me dire « il faut que je me réveille à 7h ». Donc, tous les jours, je ne me réveille pas à la même heure en fonction du moment où je m'endors. Et l'application, je l'ai depuis 4-5 ans quand même. Je l'ai achetée, à un moment donné, il y avait une promo à 50 cents. Et en fait, ce qu'il y avait aussi de particulier, c'est qu'en t'enregistrant, tu peux lui dire, voilà, trouve un moment dans les 30 ou les 50 ou l'heure avant ou les 2 heures avant où tu peux me réveiller au meilleur moment, c'est-à-dire dans un moment où tu passes dans 2 phases de sommeil. Et depuis 4-5 ans, je fais ça et c'est vrai que je n'ai plus eu de réveil, tu sais, où tu dois te réveiller en fait, où tu te réveilles et tu as l'impression que ce n'était pas le bon moment ou que tu n'as pas assez dormi. Je pense que c'est parce que des fois, on met un réveil au moment où on est en sommeil profond et on n'est pas censé se réveiller à ce moment-là. Et donc maintenant, combiner le moment de réveille-moi 30 minutes avant l'heure idéale ou même mettre l'heure idéale, fait que je vis mieux mes réveils le matin, quoi. Et alors, c'est grâce à cette application aussi que je me suis rendu compte que je ne dormais pas comme une princesse et que je ronflais. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Et alors, je fais des bruits. Et j'ai mes amis qui m'ont déjà confirmé ça. Tout ça, c'est amusant parce que je fais des bruits du style. Enfin, voilà. Du coup, je m'entends des fois ronfler, ce qui m'inquiète aussi parce que je prends bien compte que c'est un ronflement qui vient plus profond de la gorge où tu te dis qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est la clope ? Est-ce que c'est les allergies ? Enfin, voilà quoi.
Donc, ça t'arrive souvent d'écouter
tes sommeils ? Oui, le matin, souvent, j'en écoute 2-3, tu vois, comme ça. Et c'est amusant parce que des fois, je m'entends bouger et avoir des bruits comme si j'étais réveillée alors que je ne suis pas réveillée du tout, quoi. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un bruit, enfin, comme si je répondais à quelqu'un. Je dors, quoi, je ne me rends pas compte, quoi. Ou se racler la gorge ou tousser, comme si j'étais réveillée alors que je dormais, quoi. Ouais. Mais je pense que les ronflements, je les écoute plus par inquiétude de santé, de se dire est-ce que c'est un ronflement normal ? Ok, oui, cette fois-là, j'avais trop fumé ou trop bu. Tiens, là, je ne ronflais pas. Là, il y a ça. C'est plutôt, en fait, se dire que voilà, si tu ronfles, c'est qu'il y a quelque chose qui te bloque pendant le sommeil ou tu respires mal. Vérifier si c'est pas de l'apnée du sommeil. Enfin, tu vois, des choses comme ça, quoi. Mais c'est toujours amusant, ouais, tu te découvres, en fait. Tu ne te connais pas quand tu dors. Donc, c'est assez marrant.
Tu as outrepassé ta peur laisser parler ton inconscient, quoi.
Oui, parce que oui, ça m'amuse beaucoup, quoi. Et puis en même temps, quand j'ai découvert que je ronflais, je me suis dit, bon, il va falloir que tu l'assumes, quoi. Donc quand on m'arrive de dormir avec quelqu'un d'autre pour que ce soit amical ou autre, je dis toujours, bon, alors je te préviens tout de suite, je ronfle. J'ai enterré l'idée de dormir comme une princesse, les yeux posés délicatement sur le coussin. Donc, c'est. Voilà.
Qu'est-ce qu'il y a autour de ton lit ?
Bah, autour directement, pas grand-chose. J'ai mes vêtements qui sont sur la gauche parce que je me suis fait une grande penderie sur 2 mètres. J'ai fabriqué ça avec une amie. C'était mon rêve de mettre tous mes vêtements sur des cintres. Ce qui impressionne toujours les gens en disant oh, « t'as beaucoup de vêtements ». Alors je me dis peut-être que j'ai beaucoup de vêtements, mais tout est là aussi, donc voilà. Et j'ai à droite, j'ai un peu mon bureau et le bout du bureau me sert de table de nuit. Sinon, rien de spécial.
T'as une fenêtre ?
Oui, en face, juste en face. Juste en face, un peu sur ma droite.
Est-ce que tu vois le ciel depuis ton oreiller ?
Oui, je pourrais, mais je ferme les rideaux quand je dors. J'arrive pas du tout à dormir les rideaux ouverts.
Donc, tu dors dans l'obscurité totale ?
Presque, c'est pas des rideaux opaques, donc si y a un rayon de soleil ou s'il fait clair, ça se voit en fait. La pièce est dans une pseudo-obscurité, quoi.
Tu partages ton appartement avec quelqu'un ?
Non, je vis seule.
Et est-ce que tu fermes la porte de ta chambre ?
Alors, j'ai pas de porte, parce que l'appartement en fait fait une sorte de L ou d'angle. Et donc c'est une énorme ouverture entre deux pièces. Et le locataire avant, il y avait placé des rideaux que j'ai remplacés, il avait mis des voilages. Et moi, j'ai mis deux bons gros rideaux bien épais de chaque côté. Du côté de la chambre, ils sont bruns. De l'autre côté, c'est un motif un peu losange dans les tons de beige, noir et vert très clair. Et donc, en fait, je ferme les rideaux. Ouais, ouais. Et je ne les laisse jamais ouverts si je dors. Donc je m'enferme, entre guillemets, dans ma chambre. Et comme ils sont très lourds, ça garde pas mal la chaleur, ça garde pas mal le son aussi, le bruit.
Quand tu reçois, tu fermes aussi.
Oui, c'est ça, je ferme. C'est un avantage, oui. C'est que je peux fermer. Et donc les gens ne font pas attention, en fait, que la pièce continue et qu'il y a une chambre derrière, quoi.
Et lorsque tu étais enfant, tu partageais ta chambre avec quelqu'un ?
Oui. Jusque mes 12, allez, on va dire de mes 5 à 12 ans, pendant 7 ans avec mon frère. Et puis après, mes parents ont réaménagé le grenier, donc j'ai eu ma chambre de mes 12 ans jusque mes 18 ans au-dessus.
Ouais. Est-ce que tu te sentais en sécurité dans ta chambre ? Est-ce que tu as eu ton grenier pour toi toute seule ?
Ça oui, oui, oui. Ma mère avait fait en sorte de... Bah, comme c'était sous les toits, t'avais la pointe du toit au-dessus de ma tête et puis le toit qui partait en angle de chaque côté. Et il y avait un coin derrière une poutre où elle avait mis tout ce qui concernait un peu le grenier derrière. Elle avait mis un rideau, donc en fait, blanc. Donc comme les murs étaient blancs, tu rentrais, tu ne voyais pas ça. Donc j'avais une très très grande chambre, pour moi toute seule, quoi, qui faisait la taille, je pense. C'est drôle à dire, mais presque dans un tout petit appartement bruxellois. Donc, tu vois, ça devait faire, ouais. Ça, comme ça faisait tout l'espace de la maison, je pense que je devais avoir, 5 mètres sur 10, quelque chose comme ça. Je pense que j'avais une chambre de 40 mètres carrés, donc ça allait, quoi. C'est pas mal.
Ça représente quoi, le lit, pour toi ?
Je me suis toujours dit c'est l'endroit que tu quittes le matin et que tu retrouves le soir. C'est à la fois le lieu d'apaisement et en même temps c'est le lieu aussi où tu te poses beaucoup de questions le soir avant de te coucher, où les pensées reviennent. Donc c'est un lieu de retrouvailles, je dirais, avec soi-même et avec d'autres personnes. Donc, oui, plutôt ça.
Est-ce qu'il t'arrive de faire d'autres activités sur ton lit, à part dormir ?
Le classique, hein, avoir des rapports sexuels. On va dire plutôt faire l'amour, c'est plus mignon. Et puis, sinon...
Est-ce que tu manges sur ton lit ?
Non, ça non. Jamais. Jamais parce que j'ai pas envie de tacher mes draps, j'ai pas envie d'avoir des miettes dans les draps, il n'y a rien de pire. Lire, je ne lis plus en fait dans mon lit avant de m'endormir, je le faisais pendant longtemps mais ça fait des années que je ne le fais plus. Ça fait des années aussi que je ne trouve plus le temps de me poser pour lire aussi, surtout je pense que c'est ça. Donc les lectures se passent souvent pendant les vacances finalement.
Et pas nécessairement dans un lit.
Et pas nécessairement dans un lit, voilà, tout à fait. Oui, si j'ai des choses à déposer, en fait, c'est un lieu aussi où je dépose des choses en attendant de les ranger ailleurs.
Ok.
Voilà. Mais sinon, non. Je pense que c'est parce que j'ai un petit appartement, mais quand je suis en vacances chez des amis qui ont des grandes maisons, ou même quand je vais chez mes parents, mais plus en vacances, la chambre est un lieu dans lequel je ne mets pas les pieds de la journée. Donc je quitte le lit, j'y retourne peut-être pour une sieste, mais sinon je n'y vais pas. Ou je m'y rends si j'ai envie de m'isoler, parce qu'on est peut-être beaucoup dans la maison et que j'ai besoin de souffler, de me sentir toute seule. Ouais.
Tu fais la sieste pendant combien de temps ?
Je fais pas la sieste.
C'est seulement en vacances, la sieste ?
Oui, si vraiment je me sens très fatiguée ou s'il fait trop chaud. Mais sinon, je ne fais pas la sieste. J'ai toujours l'impression que je perds du temps. Donc, et en fait, j'ai découvert que c'était très agréable de ne pas faire la sieste quand tout le monde fait la sieste. C'est qu'enfin, tout se calme et tu peux vaquer à diverses occupations dans les pièces que tu veux sans qu'il y ait personne. Et c'est très chouette. Donc, et puis, j'ai un truc, peut-être que d'autres personnes ont, mais moi, c'est caractéristique depuis des années. Je parle toute seule, tout le temps. Et donc, quand je suis en vacances avec des amis, à un moment donné, je sens que je ne me suis pas retrouvée pour parler toute seule et il faut que je m'isole pour parler toute seule. Mmh. Je pense que c'est une manière d'évacuer des choses et donc j'ai besoin d'être toute seule à un moment donné pour parler toute seule. Et alors, quand on me prend sur l'entrefait, c'est un peu genre... Donc, du coup, je dois expliquer que oui, je parle toute seule et que j'ai besoin d'être toute seule pour parler toute seule. Voilà. Donc, du coup, vivre toute seule, c'est pratique. Je parle toute seule tout le temps. Et j'ai une anecdote là-dessus. J'avais un voisin, quand j'étais à mon studio étudiant, nos salles de bain, en fait, se rejoignaient. Enfin, on n'avait pas la même salle de bain, mais il y avait juste un mur mitoyenne. Et il me dit un jour, écoute, Zeynep, il y a un truc, il faut que je te parle. En fait, je t'entends tout le temps parler. Et quoi, il y a quelqu'un, t'es tout le temps au téléphone. Je dis non, en fait, Sofiane, la vérité, c'est que je parle toute seule. Et c'est... je ne suis jamais vraiment dans un silence total, sauf si j'écoute de la musique, mais sinon, je parle toute seule, quoi. Donc, il faut que je sois seule pour parler toute seule.
Est-ce que tu peux me décrire le rapport que tu entretiens avec ta peau ?
Il est mauvais. Plus particulièrement la peau de mon visage. J'ai découvert il y a 2-3 ans que je souffrais, mais ça c'est après de nombreuses recherches, d'un TOC qui s'appelle la dermatillomanie.
Ok.
C'est le fait de... Enfin, j'ai découvert que j'avais ça parce que je correspondais totalement aux critères, c'est-à-dire que bah, tu ne peux pas t'empêcher d'inspecter ta peau plusieurs fois par jour à 2 cm de ton visage et que dès que tu y décèles la moindre pseudo-petite imperfection que tu n'aurais pas vue si tu n'avais pas regardé ton visage de si près et, ou que personne ne l'aurait vue, c'est d'essayer de purger en fait ta peau. Donc tu tritures, tu vas même des fois t'aider d'aiguilles, etc. pour sortir éventuellement le pseudo point noir que tu as trouvé. Et durant ce moment où tu tritures, ils appellent ça la transe. Et c'est vrai, tu es un peu hypnotisé par ce que tu fais, tu ne penses à rien d'autre. Et quand tu finis ça, bah, tu as à la fois un moment de soulagement parce que tu dis ça y est, c'est sorti. Satisfaction, et puis tu constates en fait les dégâts, c'est-à-dire que tu es rouge, tu saignes, etc. Et donc tu te sens, tu as une phase de culpabilité, et puis donc tu vas mettre des crèmes, tu vas mettre des fonds de teint, etc. Et je me suis rendu compte, puisque moi je que ça correspondait tout à fait à ça, parce que les gens me disaient ah, mais t'as toujours de l'acné. Non, en fait, j'ai plus du tout d'acné, c'est moi-même en fait qui viens chipoter à mon visage. J'étais fascinée, enfin, je suis toujours par les personnes qui disent « Ah oui, j'ai un petit bouton qui n'y touche pas. » Moi, je me dis « Non, il faut absolument... » Et donc, avec mon corps, j'essaye de ne pas faire la même chose. Donc mais c'est un travail très, très difficile hein, de s'empêcher d'eux. C'est vraiment très... considère ça comme un TOC, donc trouble obsessionnel compulsif. J'ai eu des périodes de crise de dermatillomanie, donc tu as le visage complètement rouge, avec plein... les gens se disent que tu as une grosse poussée d'acné, en fait. Mmh. Non, c'est toi qui es venue avec tes ongles et tout ce que tu pouvais trouver. Je pense que des fois, j'aurais été capable de prendre une lame de rasoir, vraiment, pour m'entailler la peau et sortir ce qu'il y a à l'intérieur. Mmh. Et apparemment, et je pense que c'est ça aussi chez moi, c'est un besoin et une recherche de perfection. De se dire, tant que j'ai ça qui est dans sur ma peau, etc., c'est pas parfait. Donc, il faut absolument que je la nettoie, que je la purge pour que ce soit parfait. Et en effet, je crois que j'ai un problème avec ça. Je suis perfectionniste aussi, ce qui n'est pas du tout une qualité, contrairement à ce qu'on aime bien faire croire aux gens. Ça te pourrit plus la vie qu'autre chose. Et en effet, un besoin de perfection et perfection... physique, mental, de tous les étages, quoi. Donc le rapport avec ma peau est pas bon du tout. Mais depuis que je sais ça et depuis que j'ai 32 ans maintenant, donc il y a une forme de sagesse peut-être qui s'installe un peu. J'apprends à éviter je fais plus attention à ça. Et puis aussi parce que je n'en peux plus, en fait, d'avoir des croûtes, des boutons. J'ai la particularité, comme beaucoup de peaux du Sud, d'avoir des cicatrices qui sont foncées. Mm-hmm. Donc, voilà. C'est... Donc, le rapport à la peau n'est pas bon.
Et est-ce que tu aimes tes cheveux ?
Pour l'instant, oui. Je suis dans un moment de questionnement par rapport à mes cheveux. En leur demandant, mais qui êtes-vous ? Enfant, adolescente, j'ai toujours les cheveux, je dirais, plutôt lisses, ondulés. Et ces derniers temps, alors est-ce que c'est parce que je les ai coupés très courts ? Je me suis découvert des cheveux non pas frisés, mais très très bouclés. Et je me suis toujours posé la question si mes cheveux avaient été ondulés et lisses parce que je les coiffais d'une certaine manière ou si c'est parce que, finalement, quelle est leur vraie nature. Et ils ont un entre-deux, en fait. Ils sont bouclés, très bouclés quand ils viennent d'être lavés. Et puis après, ils s'alourdissent et ils peuvent redevenir lisses à la fin de la semaine. Comme je disais, je les attache pendant la nuit parce que j'ai tendance à me frotter la tête contre l'oreiller parce que je bouge beaucoup. Et du coup, je les assèche, enfin, je les abîme. Là, j'ai les pointes absolument toutes fourchues. Je pense que j'ai les cheveux plutôt du côté de ma mère, avec une pointe de mon père, parce que mes tantes en Tunisie ont les cheveux longs et lisses, donc je ne sais pas trop, c'est un mélange. Là, les dernières années, je les avais coupés courts, et maintenant, je ne veux plus, je veux vraiment revenir à des cheveux longs, en me disant que je vais... y prendre soin et ne plus laisser des dreadlocks naître, tu sais, sans... J'ai eu des moments comme ça où, non mais il faut les brosser là, c'est pas possible. Donc mes cheveux, ça va. Mais c'est parce que je considère que pour l'instant, je suis en phase de transition. J'espère que ça ira toujours après, et même mieux. Donc,
Est-ce que lorsque tu es sur ton lit, mm-hmm. tu regardes ton corps ?
Ah oui. Oui. Les jambes surtout, enfin, c'est ce que je vois le plus simplement. Après, je le regarde aussi quand je suis debout, mais oui, je le regarde, mais sans plus. Je ne suis pas omnibulée par mon corps, je pense, quand je suis sur mon lit.
Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de devoir te cacher sous les draps parce que tu ne voulais pas voir ton corps ?
Non. Non, ça va.
Est-ce que tu peux me parler de tes modèles, tes référents plutôt plastiques, quoi ? Où est-ce que tu t'es vue représentée et aujourd'hui, quels seraient-ils, ces modèles-là ?
Enfant, j'ai souvent admiré les... J'ai une grosse fan de Lara Croft, de Tomb Raider. c'est là où tu te rends compte aussi que t'es quand même pas mal dans des trucs encore hyper sexistes quand, à notre génération, enfant. Mais j'aimais bien Lara Croft parce qu'elle était sexy, elle était belle et qu'en plus de ça, c'était une aventurière. Donc ça, c'était parfait. C'était pas uniquement la femme sexy et belle, mais bon, elle est quand même designée par des hommes. Mais bref, passons. J'ai souvent admiré des je pense surtout à des actrices, si tu veux, plutôt méditerranéennes. Parce que je pense qu'il y avait un besoin aussi pour moi de m'identifier à des femmes qui pouvaient me ressembler. Je me souviens un jour que mon père m'avait dit que Claudia Cardinale était née en Tunisie, mais d'origine italienne. Donc j'étais très fascinée par elle, surtout dans ce film « Il était une fois dans l'Ouest ». Mais encore une fois, c'était une représentation... Enfin, pour moi, c'était pas forcément Claudia Cardinale, mais ces femmes qui étaient très... clairement, sexy, érotisé, c'était le summum de ce quoi il fallait ressembler en tant que femme. Et avoir un côté un peu sauvage, farouche, ne pas se laisser faire, mais en même temps un peu si. J'ai un autre regard maintenant là-dessus, parce que j'ai lu des trucs et je me suis rendu compte, voilà, le pourquoi du comment, mais... il y avait pas, j'étais pas du tout touchée par exemple par une Jane Birkin. J'étais pas du tout touchée par elle. Après, j'étais une adolescente très fine, j'ai eu des formes vers 17-18 ans, donc j'ai des femmes, j'ai connu beaucoup plus la famille de ma mère, donc les femmes étaient plutôt de corpulence petite, 1m60-65, forte poitrine, des seins, enfin vraiment je dirais le cliché de la maman méditerranéenne. Et moi, je ressemblais pas du tout à mes tantes ou à ma mère parce que j'étais grande, je faisais 1m70, j'étais très mince, très maigre ado. Et donc, je dénotais un peu là-dedans. Et puis après, les formes sont apparues après. Je pense que j'ai pris un petit peu de poids à un moment donné. C'est vrai qu'enfant, je me disais qu'il fallait que j'aie des gros seins comme les femmes de ma famille, alors que ma mère me dit toujours « Non, c'est très bien, petite poitrine, c'est parfait. Sinon, c'est horrible à porter. » Enfin, bref. Mais les dentistes, ouais, c'est plutôt ces actrices-là, quoi. Et aujourd'hui, j'en ai pas vraiment. J'aime bien les actrices qui arrivent à vieillir sans trop se retoucher. Justement, Claudia Cardinal, à mon sens, n'a pas fait grand-chose à son visage. Sophia Loren non plus, je crois. En tout cas, Claudia Cardinal, j'en suis sûre. Et il me semble que Monica Bellucci ne touche pour l'instant pas non plus à son visage. Mais je me demande si ce sont des femmes qui n'ont pas pu profiter réellement de leur beauté, en fait. Elles l'ont usée jusqu'à la moelle, elles l'ont surkiffée et elles se disent « Pfff, s'en fout de vieillir, quoi. » Donc...
Aujourd'hui, tu te sens bien dans ta peau et dans ton corps,
hein? Oui. Ça a été la grosse surprise de me sentir bien dans ma peau et dans mon corps à 30 ans. J'avais pas prévu ça dans le programme. Donc, oui. Il y avait, en fait, j'avais pris du poids en étant étudiante, mais après, c'est un classique, je pense. Quand tu fais tes études, tu bouges pas tant que ça, en fait. Donc... Et je pensais que ça allait, mais je viens d'une famille quand même où il y a quand même des regards assez machistes sur les femmes, que ce soit des hommes ou voire des femmes entre elles. Et où on n'a pas peur encore de dire « Oh, mais elle a grossi, t'as vu ?» ce genre de choses. Et mes parents et mon père surtout étaient obsédés par le fait que je grossisse. c'était... des fois, ils me disaient, mais qu'est-ce que tu manges ? Je mange rien de spécial, je ne mange pas gras. C'est juste que je ne me dépensais pas, en fait, tout simplement. Donc, tu ne manges pas gras, mais tu... Voilà. Et ça a été des contrariétés comme ça pendant quelques années, vers la fin de mes études, vers 25 ans, parce que je disais à ma mère, mais arrêtez de me dire que je suis grosse. Ça, vous êtes complètement à côté de la plaque. Non, mais tu vois, t'as un peu pris du poids. Et alors que je pense que je faisais quoi, 68 kilos pour 1m70. Donc en fait, en soi, ce n'est rien. Mais... Je sais pas, est-ce qu'ils avaient peur? Je sais pas de quoi ils avaient peur, en fait. Je sais pas de quoi ils avaient peur. Mon père a toujours été très critique sur les femmes en Tunisie, puisqu'il est tunisien, qui voilà, faisait très attention à elles. Puis dès qu'elles avaient des enfants, elles devenaient énormes. Et donc, du coup, ouais, mes parents m'ont fait chier un peu avec ça pendant quelques temps. Je pense que c'était un peu la pilule aussi que je prenais. Donc, t'arrêtes la pilule, tu fais du vélo, mais sans vouloir... J'ai maigri finalement sans avoir un but de maigrir. Donc, c'était pas plus mal. Et je suis arrivée à un poids qui me convient bien aujourd'hui. Et, je pense pas plus maigrir que ça, ni... Voilà. Ça, d'ailleurs, ça m'a fait chier de maigrir. Il y a des vêtements que je mets plus. Donc...
Est-ce que tu veux te faufiler sous les draps ?
Non, moi, je suis... Enfin, en tout cas, moi, je suis bien comme ça.
C'est bien. Par moments, j'ai des vagues de...
Ah oui, de froid.
De froid. Donc,
je crois que je suis derrière la plaque aussi.
Ok. D'accord.
Par contre, je pense que je vais remettre celui-là et je veux bien te reprendre un.
Un petit
Ouais. Ok, pas de soucis.
Je cherche un peu.
Je te laisse gérer.
Tout va bien ?
Oui, moi oui.
Tu te sens à l'aise ?
Oui.
Est-ce que lorsque tu es malade, tu restes au lit ?
Ça dépend. Mais il y a des fois où ça dépend ce que j'ai à faire, en fait. Si j'ai vraiment des trucs urgents, je vais me forcer à y aller. Je crois que les dernières années, je suis un peu plus clémente avec moi-même. Et si je suis malade, je reste au lit, quoi. En fait, je suis partie du principe que si je restais au lit, il y a plus de chances que je guérisse plus vite. Donc... Après, je suis très à l'écoute aussi de ce qui se passe dans mon corps. Et du coup, je sens quand j'ai tombé malade. Donc, des fois, ça m'est déjà arrivé. Tu sais, tu as des médicaments que tu peux acheter à la pharmacie sans ordonnance. Hop, je m'en prends deux le soir. Puis le lendemain, hein, c'est reparti, quoi. Go, go, go.
Tu veux un nouveau sachet ?
Non, je l'ai à peine...
À peine saigné.
Oui, c'est ça. Merci. Non, ça, c'est pas le
livre.
Non, c'est pas... Non. J'ai mis un énorme truc pour livraison, donc il ne peut pas le rater. C'est mis sur la porte bleue.